Info, le magazine consacré à l'Université de Lille, présente aujourd'hui les TIC, c'est TIC, donc technologie de l'information et de la communication. Et pour nous parler de ce sujet, vaste sujet, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jacques Lesage, qui est vice-président.
Philippe Mathieu,
qui est donc chargé des TIS, donc vice-président de l'Université de Lille. Et donc un domaine évidemment en pointe de cette université, hein, et aussi un domaine qui crée beaucoup d'attentes. Est-ce que j'allais dire d'attentes et d'illusions ?
Alors d'illusions sans aucun doute, c'est-à-dire que tout ce qui touche aux technologies de l'information et de la communication est toujours entouré un petit peu d'un aspect magique pour un certain nombre de personnes, et donc... Il est clair qu'on a beaucoup de gens qui se font, en tout cas, des illusions sur l'outil informatique, puisque l'outil informatique est l'outil principal qui est utilisé dans les TIC.
Ça veut dire qu'on attend trop ou qu'on s'en remet trop, peut-être, à ces technologies, Philippe Mathieu ?
Alors, dans certains cas, je pense qu'on s'en remet trop à cette technologie. Vous connaissez bien l'excuse qui est utilisée dans la plupart des magasins quand quelque chose ne fonctionne pas. Hein. L'excuse qui est utilisée, c'est l'informatique ne me permet pas de faire ceci ou cela, ou l'informatique est en panne. On sait bien qu'au bout du compte, ce n'est jamais l'informatique qui est en panne. C'est tout le temps la personne qui a programmé la machine. La machine ne fait que faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc, c'est tout le temps un problème de personne derrière, jamais un problème d'informatique.
Bon, mais c'est vrai qu'elle crée aussi des complexités. Et donc, quelque part, elle apporte beaucoup en termes de rapidité, en termes de traitement, mais parfois, elle crée des contraintes. C'est vrai que quand on tombe en panne avec une machine qui est censée vous permettre de délivrer de l'argent à un client, l'argent n'est plus délivré et on ne peut rien faire pendant la panne d'électricité ou pendant que l'ordinateur cherche vainement une base quelconque.
Alors, elle crée effectivement des contraintes. Elle crée une automatisation des tâches. Donc l'automatisation des tâches inéluctablement crée un certain nombre de contraintes pour les individus. Ça, il ne faut pas se voiler la face. La plus grosse contrainte que les TIC peuvent poser aux individus, c'est leur évolution permanente. C'est-à-dire que les outils liés aux technologies de l'information et de la communication bougent en permanence. Les technologies bougent, les outils changent et l'usage de ces différents outils nécessite une adaptabilité très forte de l'individu. Et donc ça, effectivement, ça crée beaucoup de contraintes. Ça crée beaucoup de contraintes pour pouvoir appréhender les nouvelles technologies qui apparaissent au fur et à mesure.
Ça veut dire que, bien sûr, faut s'adapter, mais quelque part, on pensait que les outils, les robots, etc., étaient au service de l'homme. Or là, l'homme doit se complier, se conformer, se formater.
Ben, il y a une certaine réciprocité avec la machine. C'est-à-dire que la machine se plie à l'homme. C'est-à-dire que il est clair que le travail commun de l'informaticien, c'est de faire des outils qui seront utilisables par tout un chacun. D'un autre côté, pour que les traitements puissent être effectués par la machine, il faut un certain formatage, et il faut donc que les gens acceptent de formater quelque part leur pensée pour qu'elle puisse rentrer dans la machine. Donc je dirais que c'est un échange quelque part. Il y a un échange entre l'individu et sa machine pour faire passer l'information.
Qu'est-ce qu'on fait des réfractaires ou des gens qui disent « nous, cette société-là, on n'en veut pas » ?
Alors, très bonne question. Il y a différents niveaux de réfractaires. Hein. Il y a le réfractaire très dur. Il y a celui qui dit, cette société informatisée, voire même électrifiée, quelque part, je n'en veux pas. Et puis, il y a des réfractaires sans doute un peu plus souples qui refusent, par exemple, de changer de technologie, de changer de machine, de changer d'outil. Alors, je pense que... Tout passe par la formation, c'est-à-dire que il n'y a pas de crainte à avoir dans l'usage de ces différents outils. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, ce sont des outils qui sont faits pour aider les individus. Donc a priori, il n'y a absolument aucune crainte à avoir de ces différents outils, il y a simplement à avoir un bon usage. Et pour avoir un bon usage, il faut être formé. Donc
oui,
tout passe par la formation.
Un bon usage, l'usage d'éthique, c'est aussi de l'éthique dans l'usage.
Ah, c'est l'éthique a une part très importante. Hein. D'ailleurs, le législateur s'est emparé de ce problème-là. Il y a un certain nombre de textes de loi qui ont été mis en place pour garantir une certaine éthique. Hein. Le texte de loi le plus parlant sur ce sujet-là, c'est la loi qu'on appelle loi sur l'économie numérique, qui a mis en place la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et qui est un organisme qui essaye de garantir une certaine éthique dans l'usage du système
d'information. J'aime bien vos précautions, hein, qui essayent. Il n'y a rien de garanti, en fait.
Mais il n'y a rien de garanti, sans aucun doute, mais c'est quelque part une idée que l'individu se fait que l'informatisation va sans doute être plus risquée que la non-informatisation. Il est clair que informatiser un certain nombre de choses ou automatiser un certain nombre de tâches, si c'est quelque chose qui est mal fait, ça risque de nuire à l'individu. Maintenant, supprimons toutes les machines, mettons ça sur des petits carnets, on arrivera exactement à la même dérive. C'est-à-dire que quelque part, les dérives, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si vous voulez. Voilà. On n'a rien inventé, quelque part, avec l'informatique. On a juste automatisé. On permet du traitement de masse.
Dans les grandes idées, ce qui fait le plus peur, c'est la perte de l'emploi, parce qu'il y a une compression de personnel liée à l'usage de ces machines, dont certaines fonctionnent toutes seules. On a parlé du Val récemment, effectivement, des machines sans conducteur. Et puis il y a aussi le fait que, à force d'être performant, de traiter de l'information en masse, en quantité, on commence à cerner de plus en plus les gens, voire même dans leur intimité.
Alors, c'est vrai, on peut pas le nier. Alors, la perte d'emploi, c'est quelque chose qui est quand même compliqué, parce que, informatiser un certain nombre de choses amène en général à une automatisation qui permet de supprimer un certain nombre de postes. C'est quelque chose qui est clair. Maintenant, pour obtenir cette informatisation, il faut créer des nouveaux postes. L'informatique, c'est une discipline, et les ordinateurs, l'usage des ordinateurs apparaissent après la guerre de 40, hein, apparaissent dans les années 50. De 1950 jusque maintenant, on a eu, en tout cas jusque ces dernières années, on va dire, on a eu une croissance en termes d'emplois. C'est-à-dire que l'informatique, d'une manière générale, et l'informatisation de nos services a créé des emplois. Il suffit de voir le nombre de sociétés de services, le nombre de web agencies, de sociétés qui développent dans les nouvelles technologies, toutes ces sociétés qui sont nouvelles, qui sont apparues avec l'informatique, ont été évidemment créatrices d'emplois. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un transfert des emplois. C'est-à-dire qu'on perd certains types d'emplois, puis on crée d'autres types d'emplois.
Alors justement, dans la crainte de perte d'emplois, c'est surtout perte d'emplois de masse, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas forcément des qualifications énormes, et voire des compétences. Ils ont peur de se retrouver au banc de la société. T'as pas de boulot, t'as pas d'existence légale.
C'est vrai. Est-ce que ce problème-là, malheureusement, est vraiment lié à l'informatique ? Je pense pas qu'il est lié uniquement à l'informatique. Il est lié à toute une série de processus. Il est lié à la mondialisation. Il est lié à une certaine rationalisation des traitements. Il est lié à une globalisation qui n'est... Alors, l'outil informatique aide quelque part à cette globalisation. Maintenant, est-ce que c'est l'outil informatique qui est véritablement responsable de cette chose-là? Je pense que ça serait aller un peu vite, quoi. L'outil informatique, il crée aussi des emplois. Et il, voilà, la société est dans une certaine dérive aujourd'hui qui effectivement pose problème. Mais je ne pense pas que ça soit lié uniquement à l'informatique.
Alors là, on a vu un peu les côtés négatifs des choses. Il faut voir aussi que cela amène de la richesse aux pays qui sont en pointe technologiquement, puisque a priori, ils sont censés avoir une plus forte valeur ajoutée des personnes qui y travaillent et donc des emplois qui sont créés.
Alors il y a de toute façon un accroissement quelque part du savoir-faire dans ces technologies, quels que soient les pays, c'est une évidence. Je pense que le problème, c'est plus un problème générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un chacun sait bien que les jeunes actuels n'ont aucun problème à utiliser toute une série de technologies liées à l'informatique. Hein. Tous les jeunes utilisent des réseaux sociaux qui sont numérisés. Tous les jeunes sont capables de faire des bandes audio, des bandes vidéo, de partager de la musique, de partager des travaux, etc. C'est plus un clivage générationnel, quelque D'accord. part, qui existe. Maintenant, ce clivage générationnel... J'imagine en tout cas qu'il a dû apparaître avec l'invention de l'électricité. J'imagine qu'il est aussi apparu à l'époque de l'invention de la roue, où il y a celui qui avait réussi à acquérir la maîtrise de l'outil et celui qui ne l'avait pas encore. Et donc ça passe de génération en génération.
Alors justement, vous êtes bien placé dans une université, puisque vous prenez les gens en fait à la fois en formation initiale et aussi en formation continue. Donc vous voyez ces écarts de comportement peut-être par rapport à ces TIC. Et donc là, dans ces TIC, il y a les TICE, donc les TIC enseignement, on va dire. Mmh. Et là, c'est votre domaine, celui de l'Université
tout
de Lille.
Oui, tout à fait.
Et donc est-ce qu'on appréhende les personnes de manière différente selon qu'elles soient entre 20 et 30 ans, on va dire, étudiants de base, ou qu'on revient dans le cadre d'une formation approfondie dans des domaines nouveaux pour ces personnes de compétences?
Alors, bien sûr, le traitement pédagogique, on va dire, qui est appliqué aux différentes classes d'âge est spécifique. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des formations continues qui sont ici données à l'université sont séparées des formations initiales. Donc le rythme de la formation continue et le contenu de la formation continue n'est pas le même que les formations initiales. C'est vrai pour toutes les disciplines et c'est aussi vrai, évidemment, pour tout ce qui touche au TIC. Donc... Bon, je pense que c'est quelque part je vais pas dire quelque chose qui choquera quiconque en disant que plus on vieillit, plus on a de mal à appréhender ces différents outils, plus on a de mal à utiliser ces différents outils. Maintenant, dans le monde des TIC, quelque part, la vieillesse arrive très très vite. C'est-à-dire qu'entre un étudiant qui est passé à l'université il y a une dizaine d'années dans des formations liées aux technologies de l'information et de la communication et un étudiant qui passe maintenant, il y a un gap. Les enseignements ont déjà été complètement renouvelés. Il y a un renouvellement vraiment très très rapide.
Vous voulez dire qu'un thésard peut parfois être à la traîne d'un nouvel arrivant ?
Bah, sur certaines technologies, sans aucun doute. Sans aucun doute. Aujourd'hui, par exemple, à l'université Lille 1, comme dans beaucoup d'universités, on a mis en place récemment une plateforme pédagogique qui permet d'avoir un rapport plus poussé à l'aide du numérique entre l'enseignant et les étudiants. Un thésard qui sort maintenant ou qui est en fin de thèse est quelqu'un qui n'a a priori jamais manipulé ce genre d'outils, alors que les primo-entrants, eux, sont tous dessus et donc ont acquis une certaine habitude d'utilisation de cet outil que le thésard n'a pas forcément.
Hein. Alors, Philippe Mathieu, est-ce que vous ressentez un stress des thésards ou même de plus que ça après des gens qui sont dans le métier, dans la profession?
Alors on ressent pas un stress du thésard parce que le thésard quelque part même si il est on va dire sur certains outils un petit peu en retard par rapport aux primo-entrants, en tout cas sur les outils qui viennent d'apparaître, le thésard lui il a pas encore de soucis, il arrivera à s'y mettre sans aucun problème. Par contre, dans la société, dans le cas général, ouais, c'est vrai. Ouais.
Est-ce que les entreprises essaient de se débarrasser des gens qui ne sont plus performants? Et est-ce que justement vous, celles dont elles se débarrassent, vous les retrouvez en fin de circuit de recyclage, on va dire?
Alors, bon, je suis un peu mal placé. Moi, je suis universitaire, hein, donc je ne suis pas industriel, donc je suis un petit peu mal placé pour juger les entreprises. Mais oui, quelque part, j'aurais tendance à dire, mais ça n'engage que moi, hein, je prends des précautions. Oui, je pense que quelque part, les entreprises préfèrent avoir du sang neuf. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il est bien préférable d'être jeune que vieux, quoi. C'est clair.
Mais quand on encourage les gens, enfin, plus qu'encourage, on oblige carrément bientôt à travailler jusqu'à 65, 70 ans, enfin, on rêve, hein, n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que, raisonnablement, quelqu'un qui a 65 ou 70 ans, on peut lui demander d'être performant dans les domaines qui exigent, j'allais dire, une vivacité d'esprit, peut-être plus du fait de gens de 20 à 30 ans, non ?
Alors, sans doute que non. On ne peut pas exiger ça de quelqu'un qui va passer à un certain âge. Maintenant, tout ça n'est pas forcément lié à l'informatique. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas 70 ans et j'espère bien. Maintenant, je reviendrai dans quelques années quand j'aurai 70 ans pour en parler. Mais enfin, j'espère bien toujours savoir à 70 ans utiliser les différents outils que je sais déjà utiliser aujourd'hui. A priori, il n'y a pas de limite d'âge à l'usage de l'ordinateur. Il y a d'ailleurs des milliers de grands-parents qui utilisent l'ordinateur quotidiennement pour communiquer avec leurs petits-enfants, qui utilisent des outils de vidéoconférence pour communiquer avec leurs petits-enfants qui sont éloignés, qui utilisent le mail, etc., et qui sont mis à un certain nombre de technologies modernes sans aucun souci. Donc ce n'est pas un problème d'âge, quelque part, pour utiliser ces différents outils. Ce qui est un problème d'âge, c'est le changement des outils. C'est le changement des outils et l'apparition de nouvelles techniques.
Mmh. Et ça, vous jugez que ça va très très vite, les générations d'outils vont en s'accélérant ?
C'est une question qui est un peu compliquée parce que ça dépend un petit peu du recul que l'on peut avoir sur les choses. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que fondamentalement, depuis 30 ans en informatique, il n'y a rien eu de nouveau. Aujourd'hui, on parle énormément d'Internet, mais enfin, Internet, c'est quelque chose qui existait il y a déjà 30 ans. Mm-hmm. Ça vient de réseaux militaires américains, d'un réseau qui s'appelait ARPANET. Hein. Ça n'a rien de nouveau. Si on est capable de prendre suffisamment de recul sur ces différentes technologies et sur ces différents outils, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de changé. Si par contre, on voit les outils comme étant d'une manière très terre à terre, alors effectivement, changer d'outils. C'est aussi changer ses habitudes. Je veux dire, c'est un peu comme changer de voiture. C'est aussi chercher comment allumer les phares. Voilà, j'achète une nouvelle voiture, j'allume plus les phares de la même manière. Je prends un nouveau logiciel, je ne vais plus, pour prendre les logiciels de bureautique, mettre en gras ou centrer un texte de la même manière. Mais maintenant, les outils feront toujours la même chose. Donc, pour quelqu'un qui peut prendre suffisamment de recul, il n'y a pas de changement.
Donc, Philippe Manieux, si j'ai bien compris, le secret de la réussite, c'est d'avoir comme habitude de changer d'habitude.
Mais ça serait un beau slogan, oui. Ça serait un beau slogan. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le slogan quelque part que l'on utilise à l'université. C'est-à-dire que l'université n'apprend pas une technique, l'université apprend à apprendre, quelque part. La chose qui est importante pour nos étudiants, c'est l'adaptabilité. Moi, je dis toujours à mes étudiants, les technologies, je suis professeur en informatique, les technologies que je leur apprends aujourd'hui, il y a toutes les chances pour que dans une petite dizaine d'années, ces technologies n'existent plus. Donc ce qui est important pour eux, ce n'est pas la technologie que je vais leur apprendre, c'est la manière d'apprendre et c'est la manière d'évoluer avec les nouvelles technologies qui vont apparaître. C'est apprendre à apprendre.
Alors ça, c'est un peu la force et, j'allais dire, la tradition universitaire. Contrairement, par exemple, à ce qu'on a souvent considéré comme l'apprentissage ou des choses comme ça, où on travaille sur des tâches ou sur des machines sans forcément penser à une évolution de la personne qui était sur ces machines. Donc là, c'est toutes les missions de l'éducation, d'une manière générale, nationale, que de former des gens à sans cesse se questionner.
Sans cesse s'adapter. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est prégnant aujourd'hui avec l'outil informatique. En tout cas, les gens focalisent beaucoup sur l'outil informatique en termes de changement. Mais ce genre de grand changement ou de grand bouleversement a toujours existé. Mmh. Il y a toujours eu des grands bouleversements dans la société qui ont fait que les choses étaient difficiles à vivre pour les gens qui étaient sur les anciennes technologies. Je ne suis pas sûr qu'à à l'époque de l'invention de la machine à vapeur et de la voiture et des premières voitures, le maréchal Ferrand du coin était véritablement ravi.
Maintenant, il y a des gens qui se font une spécialité de préserver des traditions, par exemple des petites locomotives à vapeur, qui les remettent en circuit. J'ai vu même un train qui est protégé par l'UNESCO. Dans un pays, je crois que c'est en Inde ou je ne sais plus où, bref, où ils entretiennent ce train alors qu'il est dans une technologie très ancienne comme étant dans le patrimoine de l'humanité.
Eh bien, pour l'outil informatique, c'est exactement la même chose. C'est la temporalité qui a changé, quelque part. C'est-à-dire que le passé informatique, il est au bout du compte très récent, mais dans tout informaticien, quelque part, sommeille un conservateur de musée. C'est-à-dire que tout informaticien conserve dans son grenier ses anciens ordinateurs avec les différentes technologies qui étaient associées. Et moi, je connais plein de passionnés qui collectionnent les anciens outils et les évolutions des différents outils qu'on a pu avoir, notamment sur les 30 dernières années. La temporalité n'est pas la même.
D'accord. Est-ce qu'il y a des données dans ces ordinateurs qui ont été ou qui sont encore conservés et qu'on n'a pas forcément transposé dans d'autres systèmes? Et est-ce qu'il y a des gens qui cherchent là-dessus comment faire les passerelles, qu'est-ce qui est intéressant, pas intéressant à garder ou à démontrer ou à montrer ou à préserver?
Alors, je pense que c'est la perte d'information et la perte d'information la perte d'information a toujours existé. C'est-à-dire que l'humanité, au fur et à mesure de ses développements, a perdu de l'information. On a malheureusement, dans des tas de situations, dans un certain nombre de pays, par exemple, brûlé des livres, et c'est toute une partie de la connaissance qui est perdue. Avec l'informatique, c'est quelque chose de plus en plus vrai. Le rôle des services informatiques, c'est justement, quelque part, d'assurer la conservation et la pérennité des différentes données qui ont été créées. C'est un travail de tous les jours. Et ce travail de tous les jours, il ne s'attache d'ailleurs pas simplement au fait que j'ai changé de machine et sur l'ancienne machine, il y avait des données que je n'ai pas récupérées. Mais tout simplement, je suis toujours sur la même machine, mais les formats d'encodage des informations ont changé et je ne suis plus capable de lire ce que j'avais fait avant. Ça, c'est quelque chose qui trotte dans la tête de tout responsable informatique. Comment garantir la pérennité des différentes informations qu'on a pu créer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique des informations numériques, on fabrique des documents, on fabrique des images, on fabrique du son, on fabrique des films, etc. Qu'est-ce qui nous garantit que dans 30 ans, on aura encore les outils qui permettront de lire les différentes informations qu'on a pu encoder?
Donc il y a cet aspect écriture, donc lecture aussi, et puis il y a l'aspect technologie hardware, on va dire, qui évolue très très puissamment, enfin très très vite. Et là par exemple maintenant, une bibliothèque, de plus en plus, elles sont exportées, transposées en numérique pour qu'elles soient accessibles partout, par n'importe quel visiteur, on va dire, de site web. Alors après, il y a la question des droits d'auteur qui se pose parfois aussi.
Alors la question des droits d'auteur est éminemment d'actualité et c'est quelque chose qui est très compliqué. Hein. Aujourd'hui, quand on dépose il y a deux cas de figure. Il y a la mise en ligne d'objets physiques existants quelque part, hein, une prise de photo, une photocopie de livre existant, etc., qui normalement ne peut se faire que si on respecte le droit d'auteur traditionnel qui a été associé à cet objet. Et puis après, il y a les nouvelles créations numériques qui, elles aussi, sont liées à un certain nombre de droits. On a des licences, hein, c'est ce qu'on appelle des licences. En France, on a une licence particulière qui s'appelle la licence Cécile, par exemple, qui permet de spécifier quels sont les droits qui vont s'appliquer à un document. Les anglo-saxons ont d'autres licences. Et d'une manière générale, c'est un point, moi, qui me tient à cœur, hein, par ailleurs. Il y a deux grandes familles de licences dans les créations numériques qu'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle les licences libres. Donc, qui permettent à tout un chacun de réutiliser l'information qu'il a pu obtenir, et les licences qui sont propriétaires, qui verrouillent quelque part l'information qui a été donnée.
Comment on cherche et qu'est-ce qu'on cherche en ce moment? Quels sont les secteurs de pointe de la recherche en matière de TIC?
Alors, en matière de TIC,
quel est l'avenir?
Alors là, c'est très spécifique. Hein. Je pense que je pense que aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui sont faits sur les manières les plus élégantes de faire du travail collaboratif. C'est-à-dire que en quelque sorte, ici, on est dans une université. La question fondamentale qui se pose, c'est comment mettre en place une classe virtuelle. Donc, comment être capable d'avoir les meilleurs outils numériques qui permettent d'interagir avec des étudiants qui ne sont pas forcément physiquement présents devant nous. Comment présenter les documents élégamment. Donc, on a énormément de travaux qui sont faits sur les plateformes pédagogiques, sur les outils pédagogiques, sur l'apport du numérique pour la pédagogie, sur les interfaces homme-machine qu'il faut mettre en place pour favoriser justement l'apprenant, la vie de l'apprenant dans un tel système, et puis sur l'ensemble des outils, l'ensemble des outils informatiques et des travaux de recherche que l'on peut faire en informatique sont tous quelque part destinés à être réutilisés au sein des TIS dans une université, par exemple. Mmh.
Est-ce que vous avez des demandes particulières qui sont propres à l'Université de Lille, hein, en termes de public ou en termes peut-être de commandes publiques?
Moi, j'ai toujours tendance à considérer l'université, quelque part, comme étant le reflet de n'importe quelle entreprise, quelque part. Hein. L'université, c'est une ruche avec énormément de besoins. Les besoins que l'on a ici à l'université sont à peu près les mêmes que ceux qu'on peut retrouver partout. C'est-à-dire qu'on a des... Bon, évidemment, le côté apparent de l'iceberg, c'est l'étudiant, quelque part. Et donc, c'est les outils pédagogiques que l'on met à disposition des étudiants, mais on n'a évidemment pas que la problématique des outils pédagogiques, on a tout simplement la gestion de l'université. C'est-à-dire qu'une université, c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est quelque chose dans lequel il y a du personnel, dans lequel on va gérer un système de paiement, hein, dans lequel il y a un certain nombre de rapports à avoir et de documents et de flux d'informations à avoir avec les entreprises, avec les ministères, etc. Aujourd'hui, les TIC touchent à tout. On les retrouve partout. Et donc, on a à peu près les mêmes besoins TIC que dans n'importe quelle entreprise, avec une spécificité particulière qui est la e-pédagogie.
D'accord. Si vous aviez un souhait, un vœu, Philippe Mathieu, pour conclure cette émission?
Alors, si j'avais un souhait... j'en ai plein, des souhaits. Hein, Le premier souhait que j'ai, ça concerne les formats dont je parlais tout à l'heure. C'est alors, sans rentrer dans une discussion très technique, hein, on parlait de formats propriétaires et de formats ouverts. Évidemment, moi, je suis un fervent défenseur des formats ouverts. Et donc, ce que je souhaite, c'est que les usagers prennent de plus en plus conscience de l'importance d'utiliser des formats ouverts au détriment des formats propriétaires pour partager leur information. Ça c'est le premier souhait que je pourrais avoir. Le deuxième souhait que j'aurais, c'est que l'ensemble de la population alors universitaire et même au-delà de l'université cherche à se former quelque part, hein, cherche à voir les différentes évolutions des différents outils et voit plutôt d'un œil bienveillant différentes avancées qu'il peut y avoir au fur et à mesure. C'est-à-dire que le frein quelque part que nous on ressent, le frein que je ressens en tant que vice-président de l'université, c'est évidemment la personne qui s'accroche à ses anciens outils et qui veut surtout pas voir la nouveauté. Voilà, donc si j'ai un souhait, c'est que justement tout le monde se tourne vers la nouveauté.
Philippe Mathieu, je vous remercie.
Merci à vous.